Et maintenant, ce message vocal que Drew écoute avec rage, mais aussi avec terreur. Car le garçon a la voix terriblement froide et calme en surface, et terriblement désespéré en dessous. Je ne pourrais pas venir demain, en fait. J'avais complètement oublié la sortie des délégués de classe de première terminale. Et j'ai été élu vice-président des terminales pour la rentrée prochaine. Je sais qu'on dirait une excuse, mais c'est vrai. J'imagine qu'avec vos menaces de m'envoyer en prison et tout, ça m'était totalement sorti de la tête. Efface ce message tout de suite, pense Drew, ses ongles lui mordant les paumes. C'est au centre de vacances de Riverbend, dans le comté de Victor. On part en bus demain matin à 8h. C'est une journée pédagogique, donc il n'y a pas cours, et on revient dimanche soir. On est 20. Je comptais esquiver, mais mes parents s'inquiètent déjà pour moi. Ma sœur aussi. Si j'y vais pas, ils se douteront que quelque chose ne va pas. Je crois que ma mère pense que j'ai mis une fille enceinte. Le garçon lâche un rire laconique et semi-hystérique. Drew trouve qu'il n'y a rien de plus terrifiant que les ados de 17 ans. On n'a absolument aucune idée de ce qu'ils peuvent faire. « Je viendrai lundi après-midi à la place », conclut Saubers. « Si vous pouvez attendre jusque-là, peut-être qu'on pourra s'arranger. » Trouvez un compromis. Et si vous pensez que je vous baratine, appelez Riverbend et vérifiez la réservation. Conseil des élèves du lycée de Northfield. Alors à lundi, peut-être. Sinon, ben, tant pis. Heureux. C'est là que le temps d'enregistrement, extra long pour les clients appelant en dehors des heures d'ouverture, généralement depuis la côte ouest, se termine. Bip. Drew s'assoit dans son fauteuil de bureau, ignorant comme toujours son couinement de désespoir, et fixe son répondeur pendant presque une minute entière. Il ne ressent aucun besoin de téléphoner à Riverbend, qui se trouve, de manière assez comique, à seulement 9 ou 10 kilomètres au nord de l'établissement pénitentiaire où le premier voleur des carnets purge une peine de prison à vie. Drew est sûr que Saubers dit vrai pour la sortie scolaire, parce que c'est un alibi facile à vérifier. Quant à ses raisons pour ne pas y avoir renoncé, il est nettement moins sûr. Peut-être que Saubers a décidé de le mettre au pied du mur avec ses menaces d'appeler la police. Sauf que c'était pas du bluff. Il n'a aucune intention de laisser Saubers avoir ce que lui-même ne peut pas avoir. D'une façon ou d'une autre, le petit salaud va faire une croix sur ses carnets. « J'attendrai jusqu'à lundi après-midi, » se dit Drew. Je peux me permettre d'attendre jusque-là. Mais ensuite, on va régler ça, de gré ou de force. J'ai déjà lâché trop de lest. À bien y réfléchir, le jeune Saubers et son vieil ami Maurice Bellamy, bien que situés aux deux extrémités de l'éventail des âges, se ressemblent beaucoup en ce qui concerne les carnets de Rothstein. Tous deux convoitent leur contenu. C'est pour ça que le garçon voulait lui en vendre seulement 6, et probablement les 6 qu'il juge les moins intéressants. Drew, en revanche, a peu d'intérêt pour John Rothstein. Il a lu Le Coureur, mais uniquement parce que Maurice en était dingue, et il n'a jamais pris la peine de lire les deux autres, ni le recueil de nouvelles. « C'est ton talon d'Achille, fiston, » pense Drew. « Cette convoitise de collectionneur. Alors que moi, je m'intéresse qu'à l'argent. Et l'argent, ça simplifie tout. Alors, vas-y, va faire mémuse à la politique avec tes petits copains de classe, parce qu'à ton retour, on se la jouera à la dure. » Drew se penche par-dessus son énorme panse et efface le message.